La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sainte-Afrique. Aujourd'hui, nous allons écouter la deuxième partie de la brochure « Le temps des bûchers ». Bonne écoute.
L'expropriation de la terre. Le féodalisme était un système autoritaire et hiérarchique, mais il était basé sur un modèle organique. Caroline Merchant, dans The Death of Nature, Women, Ecology and Scientific Revolution, donne plusieurs exemples de penseurs médiévaux qui utilisent le corps humain comme modèle et métaphore du corps social. Dans un travail publié par John of Salisbury en 1159, le prince, avec le clergé, fonctionnait comme l'âme du Commonwealth. Ceux qui faisaient les lois étaient le cœur, tandis que les juges et les gouverneurs étaient les organes des sens. Les soldats étaient les bras et les mains. Un bras protégeait les gens contre l'extérieur, l'autre les disciplinait de l'intérieur. Les financiers étaient les intestins des États. Les paysans, les fermiers, les artisans, le menu peuple travailleur étaient les pieds qui supportaient tout le reste. La société féodale était en réalité un système de droits et de responsabilités complexes et entrelacés qui fonctionnait à l'image d'un organisme. Son unité de base était la communauté locale, le manoir, le village, et dans la période médiévale tardive, la ville. L'économie était agraire, basée sur des cultures de subsistance. Les routes étaient mauvaises et les transports lents. Les denrées agricoles étaient périssables. Aussi, chaque communauté dépendait d'abord de ce qu'elle pouvait faire pousser et produire elle-même. L'agriculture était basée sur le village, perçue comme une organisation, plutôt que sur les labeurs et les profits d'unités autonomes comme l'individu ou le noyau familial. Dans beaucoup de régions, les champs étaient possédés et travaillés en commun. Avec l'introduction de la charrue lourde à la période carolingienne, il était devenu indispensable que les paysans se regroupent pour acquérir et entretenir une charrue et la paire de bœufs ou de chevaux nécessaires pour la tirer. Au lieu d'avoir de petits champs individuels privés, le village tout entier pouvait posséder d'énormes champs ouverts. Les décisions, telles que quand et quoi planter, quelle terre laisser en jachère, comment faire tourner les cultures et comment partager la moisson équitablement, étaient alors prises en commun. Au lieu de posséder un ensemble de terres d'un seul tenant, un paysan possédait ou louait le droit de partager les profits du sol. Dans certains cas, les paysans recevaient, en fonction du produit, plusieurs bandes de terres de différents types. Terres arables, prairies à fourrage ou pâture. Le paysan devait une contribution correspondant en travail commun de labourage, semis, moisson et soins aux animaux.
Même dans les régions où la terre était possédée de manière indépendante, de vastes étendues de pâtures, de forêts, de marais et de friches étaient couvertes par un réseau complexe de droits communaux. Bien que le seigneur local soit le propriétaire d'un bois ou d'une pâture, les paysans avaient le droit de faire paître leur bétail sur les champs en friche, d'emmener leurs cochons dans les forêts et d'y ramasser du bois pour faire du feu ou pour réparer leurs bâtiments et leurs clôtures. Dans certaines régions, de vastes étendues de terres forestières étaient réservées aux jeux privés du roi. C'est le sens légal du mot forêt à l'époque médiévale. Les paysans n'avaient pas le droit de tuer les cerfs. Vous vous souvenez de l'histoire de Robin des Bois ? Ils n'avaient même pas le droit de les chasser de leurs propres champs, mais ils pouvaient, en contrepartie, avoir droit au bois tombé et aux autres produits de la forêt. Même dans les villages où la terre était exploitée de manière indépendante, chacun était limité par les droits des autres. Une famille pouvait, par exemple, avoir le droit de faire paître son bétail dans les champs d'une autre famille après la moisson. Les seigneurs possédaient la terre, mais elle ne leur appartenait pas dans le sens où une propriété privée nous appartient. La tradition des droits communaux les empêchait de modifier l'usage d'une terre. Un seigneur ne pouvait pas, si c'était son bon plaisir, faire abattre une forêt dans laquelle les gens ordinaires avaient des droits. Même au milieu du XVIe siècle, la doctrine de la cité selon laquelle les hommes peuvent user de leurs possessions comme ils l'entendent semblait équivalent à de l'athéisme. La terre était supposée procurer les moyens d'existence, mais le profit n'était pas son but premier. Au Moyen Âge, la terre était considérée comme une source de dignité, ou comme l'endroit où grandissaient les futurs soldats, ou comme un moyen de maintenir une classe dominante dans une position sociale appropriée. Exploiter un domaine de manière à en obtenir le plus haut revenu monétaire était considéré presque comme un abus du droit de propriété, en particulier si cette exploitation entraînait la misère ou une dégradation de leur situation pour les cultivateurs du sol. La croissance d'une économie monétaire a ouvert des voies de pénétration dans les coutumes domaniales derrière lesquelles s'étaient abrités les habitants et a permis aux seigneurs de donner libre cours à la passion du profit. La société féodale était encore guidée par le principe économique de l'usage et non par celui du gain. La terre, par exemple, avait de la valeur parce qu'elle procurait une subsistance. Ce fait à lui tout seul fondait son pouvoir de déterminer le statut social. Elle approvisionnait les armées et était donc la base du pouvoir politique. Mais elle n'était pas encore appréhendée comme une ressource qui pouvait être exploitée jusqu'au gain maximal. Les lois et les coutumes féodales garantissaient aux paysans, qu'ils soient libres ou serfs, l'accès à la terre et aux moyens de subsistance. Tout ce que les paysans réussissaient à tirer de la terre, au-delà de leurs besoins vitaux et de ceux de leur famille, était redistribué vers le haut, en loyers, tribut féodal, taxes pour l'église et contributions aux travaux obligatoires. Le surplus de gains, grains, fruits, lait, viande, laine et autres produits allait droit aux classes qui combattaient, gouvernaient et détenaient ainsi le pouvoir ecclésiastique. Les classes supérieures étaient approvisionnées aux dépens d'une diminution graduelle et à long terme de la fertilité de la terre. La pratique des seigneurs de tirer des paysans non libres, ceux qui ne payaient pas des loyers, tout revenu dépassant leurs moyens de subsistance, a rendu ces paysans incapables de rendre à la terre ce qu'ils lui avaient pris. Ils n'avaient pas de ressources suffisantes pour réinvestir dans les charrues ou des engrais. Dans beaucoup de régions, les sols furent rapidement épuisés et fortement érodés. La prospérité des classes supérieures était une fausse prospérité basée sur l'accumulation d'une dette écologique. De la même manière qu'aujourd'hui, nous maintenons un niveau de vie artificiellement élevé en épuisant la terre et nos ressources non renouvelables. Le déclin de la fertilité de la terre fut une des causes du changement des formes traditionnelles d'agriculture. D'autres pressions vinrent de l'émergence d'une économie de marché qui se substitua progressivement à l'économie féodale. Bien sûr, l'économie féodale avait toujours inclus des marchés. Mais à la fin de la période féodale et à la Renaissance, ces derniers commencèrent à dominer les échanges. Le développement de l'économie de marché signifia le déplacement de la valeur d'usage en faveur de la valeur d'échange. Au lieu de produire sa propre nourriture et de vendre le surplus, les propriétaires commencèrent à produire pour le marché. Non pas ce qui était nécessaire, mais ce qui était susceptible de rapporter un profit. L'or américain envahit l'Europe au XVIe siècle en causant une terrible inflation. Les propriétaires trouvèrent que les loyers traditionnels rapportaient de moins en moins. L'inflation fit pression pour maximiser les profits de la terre comme l'ouverture des marchés en avait donné l'opportunité. En Angleterre, nombre de propriétaires arrêtèrent de cultiver les céréales et les légumes pour la consommation locale et se mirent à élever des moutons pour le marché de la laine en pleine expansion. La laine était le premier produit d'exportation de l'Angleterre et l'industrie textile fut la première à s'organiser de manière capitaliste. L'exportation des céréales était limitée depuis 1491 et la loi maintenait leur prix et le profit à en tirer à un bas niveau. L'exportation de laine fut encouragée et, à la différence des denrées agricoles périssables, elle pouvait voyager par bateau, même à une époque de mauvaises routes et de transports lents. Les lainages anglais trouvèrent un marché prêt à les accueillir aux Pays-Bas et ailleurs sur le continent. Élever des moutons demandait moins de paysans que cultiver des céréales. Il était plus efficace de le faire dans des terres clôturées, ceintes de barrières. Les profits aussi avaient tendance à être mieux assurés quand les décisions étaient prises par un seul propriétaire ou par son agent, lesquels n'avaient qu'un seul ensemble d'intérêts à prendre en considération, plutôt que par une organisation communale qui devait soupeser les intérêts de nombreux villageois et faire des équilibres ou des compromis. Les propriétaires fonciers commencèrent à faire pression pour en clore. Les clôtures, en effet, transformaient la terre en propriété privée sous le contrôle d'une seule personne, détruisant le réseau de droits et d'obligations mutuelles qui caractérisait le village médiéval. Au XVIIe siècle, les clôtures se multiplièrent et s'étendirent des forêts et des friches aux champs et à la terre labourée. Les villes fournissaient alors un marché pour les récoltes et les productions laitières. Les propriétaires qui réussissaient à s'approprier de manière exclusive de larges surfaces et mettaient en pratique l'agriculture dite scientifique pouvaient faire d'importants profits. La défense des clôtures était basée sur le fait qu'une production accrue et des méthodes agricoles nouvelles pouvaient améliorer le rendement de la terre. En partie parce que les propriétaires fonciers des classes supérieures pouvaient garder le surplus de richesses que la terre avait produit et le rendre à la terre en investissant dans des méthodes qui renouvelaient la fertilité. Il y avait plusieurs manières de transformer les lois et les coutumes qui garantissaient les droits communaux. Si la terre communale n'était plus utilisée à la suite d'un événement affectant la contrée ou parce que la population avait été détruite, le seigneur pouvait acquérir les droits unilatéralement. À une époque troublée, comme lors des guerres de religion du XVIe siècle, ou quand de grandes quantités de terres changeaient de main pour des raisons politiques, par exemple quand Henri VIII a dissous les propriétés des monastères, les paysans ont souvent perdu leurs droits traditionnels.
La terre qui n'était pas détenue sous le régime des anciens droits communaux, comme les landes, les marécages, les forêts et les zones marginales, pouvait être acquise plus facilement que les champs et les prairies bardées de droits des villageois. Aussi, les landes et les friches furent-elles closes avant les terres arables. Les forêts, qui avaient déjà diminué en raison de la demande de combustible et de bois pour la construction, spécialement la construction des bateaux, perdirent de vastes étendues. L'environnement naturel fut transformé, jusqu'à en devenir méconnaissable, et une grande partie de la vie sauvage fut détruite. La conception de la terre comme propriété privée était liée à la nouvelle vision du monde dans laquelle la nature n'est pas vivante et n'a de valeur que dans la mesure où elle peut être exploitée. La terre pouvait aussi être enclose, avec l'accord de ceux qui détenaient sur elle des droits communaux et qui étaient dédommagés en proportion de leurs droits. Un simple paiement en argent, cependant, était une compensation dérisoire pour ceux qui n'avaient que la terre pour subsister de manière indépendante. Et comme le dit Paul Mantoux, les puissants avaient à leur disposition les moyens de supprimer toute opposition. Les villageois récalcitrants sont menacés par le risque de longues et coûteuses poursuites judiciaires. Dans d'autres cas, ils sont sujets à des persécutions par les grands propriétaires qui creusent des fossés dans leurs propriétés et les forcent à faire de longs détours pour aller jusqu'à leurs terres, ou qui malicieusement nourrissent des lapins et élèvent des chevaux sur le terrain juste à côté, au détriment de leurs moissons. La terre enclose, au lieu de servir de multiples besoins et objectifs, n'en servait qu'un. Quand une forêt était abattue et close pour la transformer en pâturage, elle ne pouvait plus fournir de bois pour le chauffage ou la construction, de glands pour les porcs, d'habitat pour le gibier, de lieux pour la cueillette des herbes thérapeutiques, ni d'abri pour ceux qui étaient amenés à vivre en dehors des confins de la ville et du village. Quand un marécage était drainé pour être transformé en terre exploitable, il ne pouvait plus offrir aux oiseaux migrateurs un endroit pour se reposer ou des sites pour nidifier, ni être un lieu de pêche pour les pauvres. Les clôtures, comme l'a dit Bacon, ont engendré un déclin du peuple. Des villages entiers furent dépeuplés, les maisons tombèrent en ruines, L'église sans toit devint une étable à moutons. Quelques bergers vivaient là où avait demeuré une communauté agricole prospère. La mise en clôture fut spécialement désastreuse pour ceux qui vivaient en marge de la société. Ceux qui squattaient les prés communaux et les paysans les plus pauvres, qui complétaient des récoltes trop maigres par le produit de la forêt et des marécages. Les ouvriers agricoles aussi, qui n'avaient pas de quoi vivre avec leur maigre salaire. Ainsi, ayant perdu la source d'une vie indépendante, les plus démunis sont devenus complètement tributaires des salaires. Au XVIIe siècle, les salaires maximaux étaient fixés par les magistrats aux sessions du trimestre. Ils variaient suivant le prix du grain et non suivant le coût de la vie. Dans les industries comme l'industrie textile, ils étaient aussi fixés, et ce par des lois qui protégeaient les industriels et non les travailleurs. Les hommes gagnaient juste assez pour subvenir à leurs propres besoins, et ils n'avaient guère de marge pour nourrir une femme et des enfants. D'autre part, les salaires des femmes étaient beaucoup plus bas que ceux des hommes. Une famille qui détenait et travaillait une petite pièce de terre pouvait produire presque toute sa nourriture, et l'argent gagné par les salaires procurait en plus le liquide nécessaire. Généralement, les femmes s'occupaient du potager familial et élevaient des vaches, des porcs et des poulets. Le travail des femmes était de la plus grande importance pour la survie de la famille. Quand une famille perdait ses terres, elle devenait dépendante de maigres salaires, du bon vouloir des employeurs et des variations de l'économie. Les pauvres sombraient dans une pauvreté plus profonde et sans espoir. Les conséquences étaient encore plus dévastatrices pour les femmes. Quand une famille avait trop peu de nourriture pour s'en sortir, l'homme partait travailler dans une ferme voisine, où au moins il était nourri. La femme qui devait nourrir un bébé et en prendre soin ne pouvait pas s'en aller chaque jour travailler et devait partager la nourriture des enfants. Par conséquent, elle commença rapidement à se priver de nourriture. C'est une citation. La mortalité infantile sévissait chez les ouvriers agricoles. Ceux qui dépendaient de leur seul salaire pour vivre étaient considérés comme susceptibles de devenir des charges pour la paroisse, puisque cette institution était chargée par la loi de secourir les pauvres. Les responsables de la paroisse, pour garder le nombre des pauvres au niveau minimal et pour maintenir des impôts peu élevés, empêchaient les ouvriers agricoles au chômage et les autres personnes dans le dénuement de s'établir dans des nouvelles zones pour trouver du travail. Les femmes enceintes des classes les plus pauvres étaient spécialement indésirables, car elles allaient bientôt donner naissance à de nouvelles bouches à nourrir pour la paroisse. Le fait qu'une femme doive accoucher bientôt, au lieu de susciter un esprit de chevalerie chez les paroissiens, leur semblait la meilleure raison de l'expulser de chez elle et de la conduire hors du village, même quand une haie était son seul refuge. Encore une citation. La clôture des champs a détruit le village paysan comme unité économique. Le pouvoir sur les décisions importantes qui affectaient le bien-être de la communauté tout entière n'était plus dévolu au village ou à ses représentants. Au contraire, il devint fragmenté et privatisé, approprié par les propriétaires fonciers en même temps que la terre. Les pauvres n'étaient plus considérés comme ayant droit à des moyens de vivre décents, même réduits au minimum. En conséquence, ils étaient dans l'obligation d'accomplir un travail salarié pour des salaires qui ne leur procuraient même pas un revenu de subsistance. La communauté organique était détruite et les individus devinrent comme des atomes, séparés et non plus reliés par des obligations mutuelles. Dans beaucoup d'endroits, les paysans résistèrent. Il y eut des émeutes contre les clôtures dans maintes régions d'Angleterre, comme le Somerset, le district laitier de Taunton, le Wiltshire, le Gloucester et le nord du Devon. En Allemagne, la guerre des paysans de 1525 fut une rébellion ouverte contre l'usurpation par les seigneurs des droits communaux traditionnellement attribués aux paysans. Dans les années 1630, en Angleterre, les habitants des marécages détruisirent les équipements de drainage. Le problème des clôtures fut un des nombreux enjeux sous-jacents de la guerre civile anglaise.
La persécution des sorcières sapa l'unité de la communauté paysanne et contribua à sa fragmentation. Dans un tel climat, toute querelle locale pouvait connaître une escalade jusqu'à l'assaut mortel. D'autant que les paysans commençaient à vivre dans la peur les uns des autres. Toute vieille femme qui devenait folle et qui grommelait sous sa cape pouvait être une sorcière proférant une malédiction. Et n'importe quelle voisine, dès qu'elle était accusée et arrêtée, pouvait donner sous la torture les noms de ses meilleurs amis et de ses parents. Les persécutions encourageaient la paranoïa et la démultipliaient, touchant ceux qui, depuis des siècles, demeuraient démunis, sans pouvoir. Elles exacerbaient la méfiance et entravaient une coopération qui aurait été utile pour se confronter au pouvoir oppressif des autres. Les sorcières étaient également des boucs émissaires parfaits, canalisant la colère et la rage des classes les plus pauvres vers d'autres membres de la même classe. Pour les hommes, elles furent une cible facile, favorisant leur hostilité à l'égard des femmes. Elles encourageaient les femmes à se blâmer l'une l'autre pour leurs infortunes, au lieu de chercher ce qui avait véritablement causé leur souffrance et leur misère. Ainsi, si un enfant mourait ou se mourait, n'importe qui pouvait se sentir du pouvoir en accusant une sorcière et en la voyant pendue, au lieu d'admettre sa propre impuissance. Les festivités et les coutumes populaires, qu'elles aient été ouvertement païennes ou pseudo-chrétiennes, ont toujours été une source d'unité communale. L'arbre de mai, les feux de joie des anciennes fêtes celtiques, les danses et les coutumes traditionnelles étaient liées aux saisons et aux cycles des changements de l'année agricole. Ces manifestations célébraient le lien de la communauté et de la terre et ponctuaient les transformations circulaires des saisons dans un renouvellement sans fin. Même si, un peu partout, leur signification originelle avait été sûrement oubliée, les festivités nourrissaient un sentiment d'appartenance locale et soudaient les villageois. Une citation : « Beaucoup des coutumes populaires qui avaient été auparavant ignorées par la haute culture des hommes d'église retenaient maintenant leur attention. » La première étape de la persécution des sorcières a fonctionné comme une purge par la culture catholique orthodoxe des habitudes populaires ethniquement distinctes des villageois et des montagnards. Les coutumes étaient l'expression, par leurs actions, chants, costumes et cérémonies, de l'unité organique de la communauté humaine et du fait que le paysan faisait un avec la terre et avec ses dons. Leur destruction mettait en pièces la fabrique inconsciente de la vie paysanne. Les anciens, qui se rappelaient le sens profond des festivités et des coutumes, n'osèrent plus partager leurs connaissances. Les rituels qui avaient uni les villageois étaient détruits en même temps que le lien communal. Ainsi, au même moment où les paysans furent arrachés à la terre, les cérémonies célébrant ce lien ancestral furent proclamées démoniaques et sataniques. Les clôtures furent également dévastatrices pour leurs sorciers. Les lieux sacrés et les terres de la vieille religion étaient les friches et les forêts, lesquelles furent entourées de barrières, abattues ou détruites. La perte des droits communaux frappa durement nombre de sorcières, qui appartenaient pour la plupart à la classe des pauvres marginaux. Selon les traditions orales, beaucoup de sorcières, de même que les survivants de peuples pré-celtiques appelés fées, ont quitté la Grande-Bretagne à cette époque. Les légendes diffèrent sur leur destination. Pour certaines, c'était le Portugal, pour d'autres, l'Europe de l'Est, pour d'autres encore, le Nouveau Monde ou les terres mythiques de l'autre monde. La terre de la jeunesse, l'île des pommes, la terre de l'été. Bien que l'art sorcier ait survécu dans des poches isolées et se soit perpétué dans les traditions familiales, la force sociale des coutumes et rituels anciens, de même que le lien avec la terre considérée comme un être vivant, ont été détruits. Cette période marque aussi le commencement de l'expansion coloniale. Ceux qui ont émigré ont été coupés, parfois seulement pour une génération, de l'expérience d'un lien avec la terre honorant les rythmes et manifestations inhérents à la nature.
Ces immigrants ont apporté au Nouveau Monde l'éthique de la propriété privée et le droit absolu du possédant. Ils les ont imposés en Afrique, en Inde et en Extrême-Orient, et la possession fut dès lors régie selon leurs valeurs. Les esclaves étaient considérés comme des sous-hommes, des sauvages et des adorateurs du diable, sans valeur propre, sinon celle d'être potentiellement exploitables. Cette éthique de la propriété a légitimé un commerce d'esclaves sans précédent, de même qu'elle a justifié l'expropriation des terres des Amérindiens. Les arrière-grands-parents des colons anglais avaient peut-être honoré la nature dans leurs champs, comme déesse de la moisson ou esprit fertile de l'arbre de mai. Ils avaient certainement marqué les cycles solaires de feux de joie pour réveiller en eux le feu vivifiant du dieu, de même qu'ils avaient peut-être fait l'amour dans les sillons labourés au printemps, unissant la fécondité de leur chair à celle de la terre. Mais, dès cette époque, coupés des religions immanentes de leur passé, leurs descendants faisaient preuve d'une totale incompréhension vis-à-vis des Indiens, lesquels appréhendaient la terre comme « grand-mère » et respectaient les animaux et les plantes comme des créatures amies. Les colons considéraient les religions africaines, pour lesquelles toutes les choses vivantes sont des demeures de l'esprit, comme de la pure superstition, et les interdisaient chez les esclaves, en mettant hors la loi la danse et le tambour. Les maîtres blancs appréhendaient que le lien de leur religion soit à l'origine d'une révolte d'esclaves. Ils imposèrent aux esclaves d'Afrique leur conversion au christianisme, laquelle les réconciliait avec leurs conditions en légitimant l'esclavage, puisque grâce à lui, ils avaient été christianisés.
Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie de la brochure Le Temps des Bûchers. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie.